Après 4 ans d'absence, Georges Brassens fait sa rentrée à Paris. Brassens, une merveilleuse et gentille vedette, comme l'on dit dans les milieux du spectacle. Pour ma part, je dirais simplement que Georges Brassens, qui a vieilli comme tout le monde, a toujours du talent, de la pudeur, qu'il est toujours modeste et vraiment modeste.
Et oui, à l'époque, c'est Daniel Bélalian qui présente le JT de la 2. Nous sommes alors en octobre 76, Brassens a 55 ans et remplit les grandes salles à coup sûr. Poète populaire, à la langue autant précise que fleurie, il est, depuis 25 ans, un maître incontesté de la chanson. Pourtant, il reste lui-même un humble troubadour, rarement avare d'un bon mot. Bonjour et bienvenue dans cette cinquième visite de la saison 5 du Panthéon décousu sur Radio Alpa et RadioAlpa.com. Cette semaine, c'est donc double célébration. Brassens est né il y a 100 ans et ça fait 40 ans que le dit poète a cassé sa pipe. Si tout en France finit par des chansons, dans certaines familles, la vie aussi commence en chansons. Info dimanche en octobre 72.
Georges Brassens, vous avez dit quelque part, je n'ai aucune lassitude pour la chanson.
Je me suis toujours intéressé à la chanson. C'était une affaire de famille, la chanson. C'était pas leur métier, bien sûr. Mais tout le monde chantait, tout le monde aimait beaucoup la chanson.
Brassens est avant tout autodidacte.
Oh, j'ai pas tellement appris la musique. J'ai un peu appris la musique à 7. Et puis j'ai abandonné, j'ai laissé tomber, ça m'astreindre à faire des gammes, tout ça, ça ne me plaisait pas beaucoup. Je voulais tout de suite jouer d'un instrument, ce qui fait que je ne suis jamais arrivé à jouer d'aucun instrument. Après, j'ai pris la guitare et puis comme c'est Jacques Grélot qui m'a conseillé de chanter en scène avec une guitare, j'en jouais un petit peu déjà, mais enfin, pendant 5-6 mois, j'ai travaillé nuit et jour pour arriver à faire les quelques accords dont j'avais besoin pour mes premières chansons.
Quand vous êtes à Paris, vous aviez déjà des chansons en poche, bien sûr.
Oui, je suis venu même avec plein de chansons en poche, mais je venais pour les faire chanter par d'autres. D'ailleurs, je n'ai pas changé jusqu'au moment où Patachou m'a pris mes premières chansons, enfin les premières que le public ait connues. Les bancs publics, la prière, le brave Margot.
Le maître d'école et ses potaches, le maire, le bedeau, le bougnat, négligeaient carrément leurs tâches pour voir ça. Le facteur d'ordinaire si preste pour voir ça ne distribuait plus des lettres que personne au reste n'aurait lues. Pour voir ça, Dieu la leur pardonne, les enfants de cœur au milieu du Saint-Sacrifice abandonnent le Saint-Lieu. Les gendarmes, qui sont par nature si ballots, se laissaient toucher par les charmes du joli tableau. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, tous les gars du village étaient là, 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 étaient là, 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 là. Et Margot, qui était simple et très sage, présumait que c'était pour voir son chat. Tous les gars du village étaient là, 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 étaient là, 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 là.
Comme j'avais d'autres chansons, je lui avais chanté tout ce que j'avais. À ce moment-là, j'en avais une trentaine, mes 3 premiers disques en somme. Elle a pensé qu'elle ne pouvait pas chanter Le Gorille, Le Mauvais Sujet Repenti, L'Histoire des Gendarmes. Alors elle m'a demandé de chanter après le spectacle, chez elle, dans son cabaret. Elle se tenait à côté de moi et elle me disait « chante ça ». Et je chantais. Elle disait au public « c'est pas un chanteur de métier, si ça vous plaît, ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas, le spectacle est terminé ». Et ça a marché tout de suite. Mais je dois dire que sans Patachou, vraisemblablement, je ne serais pas tout à fait là.
Patachou, personnalité incontournable d'après-guerre, avec Jacques Canetti, qui l'engage aussi et fit de lui une vedette au disque. Avec Brassens, Canetti répond là aux questions de Guy Lux dans Top Club en avril 79.
Comment il était l'ours, le gorille, la première fois que vous l'avez vu? Vous l'avez quand même gardé 3 ans et demi aux Trois Baudets.
4 ans et demi. 4 ans et demi, j'ai vu l'ours, comme vous dites, d'abord chez Patachou, effectivement. Là, j'ai eu le coup de foudre irrésistible. Un des coups de foudre de ma vie, j'ai prié Georges de venir chanter au Trois Baudets et un théâtre de 250 places où beaucoup de gens, peu connus ou pas connus du tout, sont venus faire leurs armes et où Georges, en commençant en petit, devenant plus grand, devenant très grand et étant pendant 2 ans et demi la tête d'affiche du spectacle des Trois Baudets.
Et retour de louange au trésor de l'art en août 78.
Oui. Quelle est la grande qualité de Canetti?
De qualité, il en a beaucoup, mais pour moi, la qualité la plus éminente de Canetti, c'est qu'il travaille toujours sans tenir aucun compte de la mode. Il n'exige pas le succès immédiat d'un artiste, alors que la plupart des producteurs essaie de vous faire ressembler à la vedette à la mode. Lui, au contraire, il essaie de vous différencier des vedettes à la mode. Si on fait tel genre, aujourd'hui, il essaie, Canetti, de vous inciter à faire le genre contraire.
Hein. Au moment où j'ai commencé cette espèce de recherche des auteurs-compositeurs, on recherchait surtout des gens qui avaient de belles voix. C'était l'époque de Luis Mariano et autres. Et moi, je n'ai jamais été attiré.
Lui, recherchait au contraire les vilaines voix.
Souvent,
il l'a prouvé, d'ailleurs.
Oui, souvent, oui, je sais à qui il pense. Je considère que la voix est donc ne vient qu'en troisième position. La chose la plus importante, c'est quand même la musique. Et la musique vous permet de mieux aimer le texte. Et si la musique est bonne, et si le texte est très bon, vous avez subitement cette chose ultra rare, c'est-à-dire la chanson forte, il n'y en a pas beaucoup.
Parce qu'un artiste, à ses débuts, a quand même, quand il se lance dans l'aventure de la chanson, a quand même besoin d'être soutenu. Canetti a toujours soutenu ses artistes.
Quand
et
même
ça, c'est
chose,
très hein. important, très très important, de savoir que le directeur de la boîte ne va pas vous virer si vous prenez un bide, quoi.
Et pourtant, là, on a l'impression que Brassens a apprivoisé les médias. Mais au début, quelle timidité! À moins qu'en janvier 58, il ne fût impressionné par celle qui l'interview, Élise Elina. Il est fort probable qu'il l'écoutait avant-guerre quand il était rivé au poste de radio.
C'est pas tellement le trac, c'est une espèce de timidité, de pudeur. Ça me gêne un peu de me déshabiller devant tout le monde.
Mais enfin, quand vous avez terminé vos chansons, au lieu de saluer, vous tournez le dos.
Mais je suis trop gros pour saluer.
Vous avez beaucoup maigri. Vous avez beaucoup de nouvelles chansons.
Huit chansons, c'est obligatoire, vous savez.
Mais c'est vrai que vous êtes allé en Bretagne pour les écrire ?
Non, je suis allé en Bretagne pour me reposer de les avoir écrites.
Ah bon, au fond, c'est la Bretagne que vous aimez ?
Oui, c'est la Bretagne et la mer, surtout.
Les finances arrivant, il s'offre une maison dans les Côtes d'Armor, à Les Ardrieux. Sans manquer de passer chaque année voir ses parents et ses amis à Sète, comme ici, en 61.
La lumière que je préfère, c'est celle de vos yeux jaloux. Tout le reste en m'indiffère, j'ai rendez-vous avec vous.
Dites-moi, Georges Brassens, vous venez souvent ici dans la maison de vos parents ?
Eh bien, je viens à peu près chaque année, je viens passer un mois.
C'est ici que vous êtes né ?
C'est ici que je suis né, à l'étage au-dessous.
J'ai vu que votre mère vous avait préparé des beignets aux moules à midi.
Des beignets aux moules, oui, c'était des moules que j'avais pêchés hier.
Parce que vous pêchez pendant vos vacances ?
Je pêche des moules, ça va pas plus loin. J'ai acheté un bateau pour m'isoler un petit peu.
Parce qu'ici, même dans votre ville natale, on risque de vous déranger.
Non, les gens de Sète ne me dérangent pas. Ils me connaissent, alors ils n'éprouvent pas le besoin de me sauter dessus. Remarquez qu'on ne me saute jamais tellement dessus. Je ne suis pas un chanteur de charme.
Avec le bateau, vous allez en mer ?
Non, pas en mer, parce que je ne suis pas très fort. Je ne suis pas un marin de première catégorie, alors je préfère rester dans l'étang de Thau.
Pour vous baigner ?
Pour me baigner, oui. C'est pas tellement pour faire du bateau, c'est surtout pour nager.
Vous avez trouvé un coin agréable dans l'étang de Thau ?
J'ai adopté un petit phare, là. Il y avait une espèce d'écueil, un rocher, au milieu de l'étang. Et alors, pour le signaler au bateau, pour signaler le danger aux embarcations, ils ont mis un phare dessus. Alors, moi, j'y suis allé.
Mon père en a toujours beaucoup plu, parce qu'il ne s'est jamais tellement occupé de moi, il ne s'est jamais tellement mêlé de mes affaires, de collège, tout ça. Il a commencé à dire, quand il avait des discussions avec ma mère, parce que ma mère voulait que je devienne un fonctionnaire, un truc comme ça, il a dit, laisse-le faire, il fera ce qu'il veut, il se débrouillera, ça n'a pas d'importance. C'est pas parce que c'est notre enfant que nous avons des droits sur lui, c'est pas, nous n'avons pas à lui imposer de... Il n'a pas dit ça devant moi, mais je l'ai entendu, les enfants entendent à travers les murs. Il pensait que, même tout petit, j'étais assez grand pour trouver moi-même l'attitude qu'on doit avoir dans la vie, le comportement. Il voulait rien me dicter.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène, je reste quoi ? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi.
Avec la célébrité vient aussi une certaine réputation. En 54, alors qu'il n'est pas encore très connu, mais sillonne les routes de France avec son ami Jacques Grélot, vous savez, celui qui lui a offert sa première guitare. Auteur plein d'ironie, la paresse, le péché le moins fatigant, Grélot reste aussi la voix du renard dans Le Petit Prince avec Gérard Philippe. Il nous narre ici une anecdote de lendemain de gala dans un parc de Vichy. Attention, ça frise la dénonciation.
pour décrire Brassens, elle disait à son interlocutrice, « Eh bien, c'est une espèce de romanichel qui n'a aucune éducation. » Et alors, il chantait, puis il ne savait même pas. Et alors, l'autre dame a répondu, et on l'engage encore au casino. Je trouvais que la situation était parfaitement résumée.
Et à travers les livres qu'il aime, c'est tout l'univers du poète Brassens, Grand Prix 1967 de l'Académie française, que nous retrouverons.
Dans le premier cercle Brassens, on trouve aussi un romancier, René Fallet. Pour vous le situer, Fallet, ami de Carmet et de Audiard, avec qui il fait du vélo, est un auteur populaire au style social et rabelaisien à la plume efficace et imagée. Visé plus tôt, sur ses 20 romans, 10 ont été adaptés soit au cinéma, soit à la télévision. Ratio impeccable, le plus populaire restant « La soupe aux choux ». Au micro de Michel Pollack, le poète et le romancier devisent littérature.
Mais le poète et l'écrivain, plus la chanson, tout ça, ça leur a donné deux amis qui aiment la lecture, non?
Bon, on a beaucoup lu, hein?
Eh oui.
Toi plus que moi, pareil.
Je ne sais pas.
Vous lisez toujours autant, non?
Je ne lis plus autant, je relis. Je suis aperçu que j'avais mal lu pendant très longtemps. Alors je relis. De peur que trop de belles choses m'aient échappé. En réalité, la plupart des belles choses m'avaient échappé.
Et maintenant que vous relisez quoi de préférence?
Ah ben, de préférence, je ne sais pas, ça dépend des années, quoi. Je pense que les auteurs que je relis le plus souvent sont, en premier lieu, c'est Voltaire.
Ah oui.
Et après Voltaire, immédiatement Claude Tillet, mon vieil oncle Benjamin.
Alors là encore, mon oncle Benjamin est sans doute plus connu dans son adaptation au cinéma. L'émission télé date de 67 et le film d'Edouard Molinaro avec Jacques Brel, comme par hasard, de 69. Je dis ça, je dis rien. Ni Vernet pour Fléter, sous la Restauration, on doit à Claude Tillier des aphorismes tels « Quiconque a semé des privilèges doit recueillir des révolutions ».
Claude Tillier d'ailleurs n'est pas très connu, c'est bien dommage, parce que c'est un des plus grands écrivains, un écrivain voltairien. Et c'est sous le manteau, en somme, qu'il est lu. Il est lu en cachette.
C'est les agents secrets de la littérature. Hein.
J'ai été imprégné de cette œuvre, j'en ai tiré, on peut dire, mes chansons. Quand j'ai lu Mon oncle Benjamin, je me suis découvert, si vous voulez. Je devais avoir 24 ou 25 ans. Mais c'est l'atmosphère, ce sont les personnages. Et puis la philosophie voltairienne est un peu épicurienne, enfin...
Oh, bien épicurienne, même.
Tout à fait.
Oui. Une très grande gentillesse, d'ailleurs, dans le bouquin.
Oui, une espèce de générosité. Oui, oui, oui.
Claude Tillier est aussi auteur de « La vraie capacité est celle de l'intelligence, la vraie science est celle du cœur ». La langue de Brassens vient donc aussi de cette veine du roman populaire. En janvier 1976, il accueille chez lui Jean-Pierre Chabrol pour La Malparole.
Une langue, c'est une convention, on doit jouer avec, on doit s'en servir, il faut essayer de connaître l'orthographe. À cette époque-là, un analphabète, créé tous les jours, était obligé de se forger un peu sa langue. La force de la forger à la fréquentation de ses copains, si trois ou quatre types dans un village étaient un peu doués, ils arrivaient à créer une espèce de langage avec des expressions très particulières, d'ailleurs à ce village, qui petit à petit ont disparu. Maintenant, on n'a plus besoin de ça, on n'en a plus besoin de ces expressions, puisqu'il suffit d'aller à l'école, de sucer ce truc avec l'enseignement obligatoire pour avoir la langue. Alors on ne la cherche pas quand on n'a pas besoin de quelque chose. Quand un outil existe déjà, on ne s'en fabrique pas. Hein. Et souvent l'outil que l'on se serait fabriqué irait plus loin et travaillerait mieux que l'autre, que celui qu'on nous donne tout fait.
Tous les morbleus, tous les ventres bleus, les sacres bleus et les cornes gidouillent ainsi parbleu que les jarnies bleues et les pâles sont bleus.
Bleu serait ici un suffixe remplaçant le mot Dieu dans toute une série de jurons peu catholiques.
On peut raconter toute sa vie.
Monsieur Pavino, vous avez des formes différentes selon les interprètes qui viennent chez vous?
Oui. Alors, ici, c'est la forme de la guitare à Monsieur Brassens. C'est son modèle, c'est sa forme. C'est celle qui lui a plu. Et... je pense qu'il continuera toujours à l'aimer.
J'en suis sûr.
Mais comment l'a-t-il choisi, cette forme-là?
Il ne l'a pas tout à fait choisi.
Il me l'a imposé. Hein.
Voilà. Je lui ai imposé. Il m'a apporté un modèle. Il dit, est-ce que vous pouvez me faire une guitare dans ce genre? Et à partir de là, j'ai dit, oui, je m'en vais essayer. Et elle lui a plu. Alors...
Mais alors, d'où venait-elle, la première guitare de Brassens?
Jacques Grélot m'en avait donné une, c'est peut-être celle-ci, je ne me rappelle plus, enfin on l'a volée celle-là.
Avec son dernier guitariste, Joël Favreau et Maxime Forestier en 75 chez leur luthier.
Visage inhabituel encore de Brassens au piano.
Car on le sait peu, mais le processus de validation d'une bonne chanson chez Brassens passe par son piano, ce qui expliquerait leurs difficultés à la guitare. Corne de rock avec son complice de toujours, Pierre Nicolas.
Là, je te remplace, hein.
Octobre 72.
Vous savez, les thèmes viennent chez moi parce que, d'abord, il n'y a pas 36 000 thèmes. Les thèmes sont peu nombreux. Un beau jour, une idée me vient, une image me vient, deux vers me viennent du ciel ou de je ne sais où, et j'en fais une chanson. Sans me poser de questions, je ne me regarde pas écrire. J'écris ce qui me passe par la tête, et puis quand c'est fini, le critique que j'ai en moi décide si ça peut être livré au public ou non.
L'invité du dimanche faisait dialoguer cet après-midi de 69 deux engagés. À chacun son chemin, la ligne Brassens et le cap Ferrat.
Ne croyant pas aux opinions collectives et ne croyant pas, étant contre personnellement sur le plan de l'esthétique dans le domaine de la chanson, étant contre l'efficacité, je m'entends, je ne tiens pas par exemple à donner d'explications et à donner une morale, à indiquer les voies que je pense qu'il faut suivre ou ne pas suivre. Je me borne, si tu veux, à donner mes impressions en face de problèmes. Même si je ne les traite pas, les problèmes, ils sont sous-jacents, pour employer un mot que je n'aime pas beaucoup. Je pense être plus efficace, en ce qui me concerne, en faisant des petites chansons qui apportent 4 ou 5 minutes de bonheur. Bon, bonheur est un mot un peu grand, un peu vaste, 4 ou 5 minutes de joie à certains, à pas tout le monde, bien sûr, à ceux qui les aiment. J'estime en faisant ça n'avoir pas trop démérité. Voilà, c'est que d'abord, je ne me crois pas le droit de dire aux gens ceci est bien et ceci est mal, parce que je ne le sais pas tellement moi-même. Et ensuite, parce que je te dis, sur le plan de l'esthétique, moi je ne suis ni un philosophe, ni un sociologue, je fais des chansons, je suis un poète mineur, mais un poète quand même, un faiseur de chansons, si tu veux, et je traduis mes émotions. Et puis je pense aussi que sur le plan de l'efficacité, on peut être efficace en étant indirect. Si c'est bien connu, si tu dis « jeter la crosse en l'air, camarade » à des soldats, personne ne t'écoute, les militaristes ne t'écouteront pas.
Oh, la musique militaire me plaît parfois beaucoup, j'aime assez ça. D'ailleurs, de temps en temps, dans mes chansons, j'ai des rythmes qui pourraient très bien faire de l'usage chez les militaires.
Et la Marseillaise
Non. Non, la musique n'est pas mal, les paroles sont très discutables sous le rapport de la qualité.
Et puis la mauvaise herbe, quand le jour de gloire est arrivé, comme tous les autres étaient crevés, moi seul connu le déshonneur de ne pas être mort au champ
d'honneur. Oui, enfin c'est un peu de la littérature tout de même, enfin.
C'est Pivot qui a tenté l'apostrophe en 75, limite au garde à vous des gradés présents, dont Bijard, vous avez dit Bijard.
Parmi les 14 nouvelles chansons de la QV 76, une colle particulièrement à l'actualité, au conflit qui oppose le Vatican à Mgr Lefebvre, tenant de la messe en latin. La chanson s'intitule « Tempête dans un bénitier ».
Vous savez, ma mère était très catholique, était catholique pratiquante. J'ai été élevé dans un milieu quand même où, à part mon père, tout le monde était plutôt tourné vers l'Église. Mais quand j'ai entendu parler de la suppression du latin, j'avais écrit un quatrain que mon ami le père Sèvres, André Sèvres, le frère André, qui est jésuite, a entendu il y a longtemps. Et je l'avais noté dans un de mes carnets, comme j'avais noté il y a 30 ans, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route qu'eux. Et puis je m'étais dit, j'en ferai quelque chose un jour ou l'autre. Et quand il y a eu cette tempête dans le bénitier, quand ils ont commencé à se balancer, à se battre à coups de goupillon, les hommes d'église, j'ai pensé que c'était rigolo de faire une chanson là-dessus. Mais mon seul but était de rigoler, quoi, et de faire rire les autres si possible.
Ils ne savent pas ce qu'ils perdent, tous ces fichus calotins. Sans le latin, la messe nous emmerde. Le vin du sacré calice se change en eau de boudin. Sans le latin, et ses vertus faiblissent. À Lourdes, ça tout bien parme, comme à Quimper Corentin. Le presbytère sans le latin a perdu de son charme. Ô très sainte Marie mère de gueulites à ses putains. De moines qui nous emmerdent sans le latin.
Et là, vous vous demandez si une chanson en entier est prévue ? Eh bien oui, c'est maintenant et en direct de Bobino en 69.
Au marché de Brive-la-Gaillarde, au repos de votre oignon, quelques douzaines de gaillardes se crêpaient un jour le chignon. À pied, à cheval, en voiture, les gendarmes mal inspirés vinrent pour tenter l'aventure d'interrompre les chauffourées. Or, sous tous les cieux, sans vergogne, c'est un usage bien établi. Dès qu'il s'agit de rosser les cognes, tout le monde se réconcilie. Ces furies perdant toute mesure se ruèrent sur les guignols et donnèrent, je vous l'assure, un spectacle assez croquignol. En voyant ces braves pandores être à deux doigts de succomber, moi je bichais car je les adore, sous la forme de Maccabée. De la mansarde je réside, j'excitais les farouches bras des mégères gendarmicides en criant hip 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 hourra. Frénétique l'une d'elles attache le vieux maréchal des logis et lui fait crier mort aux vaches, mort aux lois, vive l'anarchie. Une autre fourre avec rudesse le crâne d'un de ses lourdeaux entre ses gigantesques fesses qu'elle serre comme un étau. La plus grasse de ses femelles, ouvrant son corsage dilaté, m'attrape à grands coups de mamelle, ce qui passe à sa portée. Il tombe, 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 et selon les avis compétents, il paraît que cette hécatombe fut la plus belle de tous les temps. Jugeant enfin que leurs victimes avaient eu leur compte en deniant, ces furies comme outrage ultime, en retournant à leurs oignons, ces furies, à peine si j'ose le dire tellement c'est bas, leur aurait même coupé les choses, par bonheur ils n'en avaient pas, leur aurait même coupé les choses, par bonheur ils n'en avaient pas.
Vous savez, Jean-Pierre, je ne bats aucun record, là. J'ai toujours du plaisir à chanter. Je chante tous les jours chez moi, même quand je ne passe pas en public. Alors là, le public venant, c'est, le plaisir est encore plus grand.
Jean-Pierre, c'était le cabache, et le 22 février 77, les moyens de la SFP avaient permis un duplex, non sans garantie de friture sur les ondes.
Mais à quelle heure vous venez généralement dans votre loge? Parce qu'on me raconte très souvent que vous aimez venir assez tôt, vous préparer minutieusement avant de chanter.
Alors, minutieusement, c'est beaucoup dire, parce que je viens toujours à 7h30, parce que j'aime bien voir ce qui se passe avant, j'aime bien voir mes camarades, j'aime bien m'installer avant, et puis attendre chez moi ou attendre ici, c'est plus agréable d'attendre ici en entendant de la musique.
Alors qu'est-ce que vous allez nous chanter pour que nous terminions avec vous, Georges Brassens, ce journal d'Antenne 2 ce soir?
Eh bien, si vous voulez, je vais vous chanter Cupid, on s'en fout. Avec Pierre-Nicolas à la contrebasse, comme toujours.
Se consacrant à d'autres imbéciles, il n'eut pas l'heure de s'occuper de nous. Avec son arc et tous ses ustensiles, il est des jours où Cupid, on s'en fout. Il est des jours où Cupid, on s'en fout.
En fait, pour un écrivain, il y a une chose très ennuyeuse qui peut survenir, c'est de mourir.
Mais ça leur arrive à tous, hein, tu as remarqué.
Un des thèmes, parce qu'il y en a quand même, qui sont revenus fréquemment chez vous, c'est celui de la mort. Vous avez dit aussi ailleurs, je m'en fiche de la mort, mais celle des autres me dérange bougrement.
Octobre 72.
Oui. Ah, j'ai dit ça, hein. J'avais sans doute perdu quelqu'un un peu de temps d'avant, bien sûr. On a cru que parce que j'avais conduit la mort sur une scène de music hall, j'étais préoccupé par l'idée de ma propre mort. Bien sûr, j'en suis préoccupé, mais comme tout le monde, bien sûr, il est toujours triste de penser qu'on ne va plus voir, on ne va plus rien sentir, qu'on ne va plus rien éprouver. Je n'ai plus jamais assez plaisanté avec la mort. Ça aussi, c'était une histoire, une affaire de famille. Mon père, ma mère, mon grand-père, on aimait bien rigoler avec les enterrements. La supplique pour être enterré à 7, finalement, c'est presque de la publicité pour inciter les gens à venir se tremper dans la Méditerranée.
Quand vous étiez petit garçon, vous nagiez dans les eaux du canal.
Pas
sur
loin
lequel
d'ici,
nous
oui. Les parents n'aimaient pas beaucoup ça. Les parents préféraient nous voir aller à la plage. Mais on aimait nager dans les canaux parce qu'on pouvait plonger et faire des bêtises.
Et qu'en prenant ma butte en guise d'oreiller, une ondine viendra gentiment sommeiller avec moins que rien de costume.
demande pardon par avance à Jésus. Si l'ombre de ma croix s'y couche un peu dessus, pour un petit bonheur posthume. Pauvre roi Pharaon, pauvre Napoléon, pauvre grand disparu, gisant au Panthéon. Pauvre cendre de conséquences, vous envierez un peu l'éternel estivant qui fait du pédalo sur la vague en rêvant, qui passe sa mort en vacances. Vous envierez un peu l'éternel estivant qui fait du pédalo sur la vague en rêvant, qui passe sa mort en vacances.
En regardant Brassens se confier à Evelyne Paget sur le port de Sète ce 11 juillet 81 sur TF1, j'imagine que peu de gens se doutaient que ce serait sa dernière apparition publique. Souffrant depuis des années de problèmes rénaux, il s'éteint il y a 40 ans, le 29 octobre 81. Depuis, ses chansons vivent dans de très nombreuses reprises, dans bien des styles et sous bien des latitudes. Ainsi se referme notre cinquième visite de la saison 5 du Panthéon décousu sur Radio Alpa. Vous pourrez retrouver le podcast sur le site radioalpa.com et dans le Mixcloud de l'émission se trouve l'intégrale. Mais nous n'y quittons pas sans musique. Brassens adorait le jazz. À la fin de sa vie, il reçut le cadeau de ses amis 4 disques de reprise, dont celle-ci qui fut longtemps le générique des premiers Panthéons décousus. Bonne semaine à toutes et tous et ne vous privez pas de fréquenter vos poètes intimes.
Il y a peut-être des mots qui vous ont choqué chez Brassens, mais c'est un poète qui a son langage bien à lui. En tout cas, ses gros mots ne sont jamais vulgaires.
De Brassens, j'ai pleuré comme un môme. Alors que le jour de la mort de Tino Rossi, j'ai repris deux fois des mots.